En 2024, ils étaient là. En 2025, ils sont toujours là. Plume et pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B.
C'est la nouvelle année.
Nouvelle année, et n'oubliez pas vos chaussons, comment dirais-je, étanches, parce que il pleut.
Vos bottes.
Hein, il pleut aujourd'hui.
Ouais, nouvelle année, on va vous présenter dans cette émission, on va retourner à Quélébule en fait. En 2024, on va aller rencontrer Jérôme Pélissier et Karine Inder, qui sont au catalogue Glénat pour une excellente trilogie intitulée Brume, les aventures d'une petite fille qui pense être une sorcière dans un village plongé au milieu de la brume, un village un peu inspiré de Roche-Terre. On les a rencontrés à Quai des Bulles, tous les deux, ils étaient hyper sympas.
Et c'est un truc, alors moi effectivement, ça c'était c'est vous qui me l'avez fait découvrir.
Oui, au début vous étiez circonspect, je me souviens.
Plus que circonspect.
C'est pour Petio ton truc.
Mais effectivement c'est pour Petio, mais une semaine après l'interview, j'ai rencontré j'étais chez des amis qui gardaient leurs petits-enfants, mes amis comme moi, nous ne sommes pas des perdreaux de l'année, et je leur parle de BD, est-ce que vous lisez de la BD? Puis ils m'ont dit, oh ouais, on lit Brume, mais quand je leur ai dit que j'avais rencontré la dame et le monsieur qui faisait Brume, ils m'ont regardé avec des étoiles dans les yeux. Ah, et je n'imaginais pas à quel point effectivement cette bande dessinée de Brume était populaire chez les petits, et c'est tant mieux.
Ouais, c'est cool. C'était une belle rencontre, c'était une excellente trilogie, donc on va vous les faire rencontrer avec nous. Et puis on va avoir de la musique, et puis on va avoir des news. Et puis c'est vrai que 2025, ça va être une année spéciale pour vous, mon bon Roger, parce que je crois que vous allez avoir la carte sortie de prison du monde du travail.
Yes. Il ne me reste plus que 3 putains de semaines, nom de Dieu. Et j'ai pris 6 mois, moi, avec la réforme à Micron. 6 mois ferme.
Le champ lexical est très prisonnier, je trouve.
Ah, nom de Dieu, j'ai pris 6 mois ferme. Il me reste encore 3 semaines à tirer. Et là, vous savez, c'est comme les vieux tolards, vous savez.
Carcéral, votre truc.
Ouais. J'ai 3 semaines à tirer, faut pas faire le con. Et c'est dommage parce que dès lundi, j'étais chaud, je vous ai rencontré. Déjà, j'étais en train d'envoyer des mots et tout à droite à gauche. Et ce qui a même fait dire à un de mes vieux amis, Jean-Loup, qui lui est déjà en 13 enfoiré, qui me dit ça va, Roger, je vous trouve cool en ce moment. Non, je ne suis absolument pas cool, mais je partirai debout.
Vous êtes dans le self-control. Bref, 493e émission de Plume et Pinceau. Allez, on envoie de la musique. Eka Vandal, ça va pulser.
Yes.
Yeah. But Never Die par Eka Vandal.
Très bien,
on pourrait traduire ça comme toucher mais pas couler.
Ouais, il faudra que vous mettiez ça, vous me glissiez ça sur ma clé.
Une jeune fille avec des cheveux bleus mais d'une énergie folle. Alors,
allez, tiens les news.
Les news.
Alors que nous avions décidé d'entamer un Dry January. Voilà. Voilà que le 7 janvier, pouf, eh bien, on apprend la mort de Jean-Marie Le Pen. Vous imaginez bien qu'effectivement, le Dry January en prend un coup dans la gueule direct. Et mis à part effectivement ces contingences d'ordre hygiénique, eh ben la BD aussi, la BD, alors la musique, on a coutume de dire, nombre de groupes, la jeunesse en merde, le Front National, etc. Mais la BD aussi s'était exprimée de façon très très claire, et je rends grâce au journal Libération qui hier a fait paraître un article intitulé dans le rétro « Capitaine Neupel quand Jean-Marie Le Pen se faisait mettre en case par les tuniques bleues ». En 1993, 5e album de la série de Raoul Covin et Lambil mettant en scène un personnage évoquant directement le patron du Front National, un parti pris politique rare et une charge très efficace contre l'extrême droite.
Oui. Alors, effectivement, le capitaine Népal, il était borgne, il avait un visage très carré, était blond, il y avait quelque chose dans la mâchoire et tout ça. Et c'était, dans l'histoire, c'est un affreux, effectivement. Ça reprend un peu presque une idée de comme on pourrait avoir dans des Astérix, tu sais, on croque des contemporains.
C'est ça.
Et on les utilisent des fois leur image pour les renvoyer aussi à ce qu'ils sont, et puis parce que les gens savent que lui c'est le cynique, lui c'est le méchant, lui c'est l'arriviste, le personnage, la vraie personne donne le trait de caractère du personnage, quoi.
Et dans cette histoire, donc le capitaine Népel est nommé pour remplacer alors que comment Blutch et le Chesterfield sont peinards à la frontière,
là, le 22e de cavalerie,
ils sont en dehors un peu de la guerre, ils sont peinards, sauf que là pouf, il y a le capitaine Népel qui arrive pour remplacer le commandant du fort, qui était jusque-là assez cool. Et lui, il prend la place, Népel, dont l'anagramme de Le Pen, naturellement, on l'aura reconnu.
Exact.
Et il prend, et puis alors il commence par chasser les Indiens qui faisaient du business dans le fort. Il chasse laveur de linge chinois. Il chasse le cuistot black, etc.
Métaphore.
Tout le monde se barre. Et résultat, ça part en couille et la guerre menace de nouveau avec les Indiens, alors que jusqu'à présent c'était très cool. Voilà. Et c'est comme quoi la BD, quand même, vous voyez, la BD, il n'y a pas que la jeunesse qui emmerde le Front National, il y a aussi la BD, parce que Lambil et Covin, on ne peut pas les appeler quand même comme étant des perdreaux de l'année.
Non, on avait rencontré Covin, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y a vraiment très longtemps.
C'est Crédibule, tout à fait.
Une de nos premiers, dans les premières saisons. Gentil monsieur.
Un
petit air de papy.
Il a eu de la misère d'ailleurs ces derniers temps. Il y a des salauds qui ont dit je sais plus quoi sur son boulot. Et si c'est comme ça, j'arrête. C'est malheureux effectivement de voir ce grand monsieur comment.
Pourtant, c'est une très bonne série, Tunique Bleue. Et il y a plusieurs albums où finalement tu as des réflexions sur les Indiens. Comment il s'appelait celui avec le black là? Tu sais, le fossoyeur black qui se rebelle.
Blackface, je crois que c'est ça.
C'est un excellent album, ça, par exemple. La prison de Robinson aussi, j'aimais bien.
Voilà,
Robertsonville. Robertville.
Capitaine Neupel dans la série des Tuniques Bleues paru en 93. C'est aussi l'occasion de parler du triste 10e anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo, voilà, et je vois Erwan qui me brandit, Monsieur Plume qui me brandit...
Hebdo Increvable, le numéro du 7 janvier 2025. Dans ce numéro Charlie Hebdo Increvable, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, mine de rien, une réflexion sur les enjeux de cet attentat, et tu t'aperçois, en lisant, il y a plein de statistiques, de sondages qui ont été faits et qui sont publiés tu vois les résultats, et en fait, 76% des Français sont pour la liberté de caricaturer. C'est-à-dire que les gens, s'ils ne sont pas forcément Charlie, ils sont quand même d'accord sur l'idée que la caricature, et donc de ce fait aussi le blasphème, c'est quand même une valeur importante, quoi.
Bah, t'façon,
après, ils ne sont pas forcément fans de Charlie Hebdo, mais c'est vrai que ça, poil à gratter que faisait Charlie Hebdo, là. Tu peux le retrouver chez plein d'autres acteurs de la vie culturelle, dans d'autres journaux, ciné par exemple, justement, par d'autres biais, quoi, Lompré, etc.
Et c'est bien que vous parliez de ciné, parce que justement, ce genre de presse n'est pas la fête en ce moment. Ciné Hebdo a fait un Ciné Mensuel, pardon, a fait un appel à comment à ses lectrices, à ses lecteurs, et puis à tout genre, tous les gens qui voulaient les soutenir. Ils ont bénéficié de soutien, mais d'après le dernier texte que j'ai lu de, comment dirais-je, l'ex-compagne de Monsieur Ciné, eh bien l'aventure va se terminer en mars et en avril. Je suis pas convaincu non plus que tous ceux qui se prétendent être Charlie et en faveur du dessin de la presse le soient tant que ça. On en avait parlé d'ailleurs, j'avais relayé l'appel à l'aide, mais c'est un peu partout pareil. Aux États-Unis, la dessinatrice du Washington Post, Anne Telnaes, je sais pas si on dit Telnaes ou Telnes, démissionne après un dessin critiquant Jeff Bezos, c'est-à-dire qu'elle avait proposé un dessin critiquant Jeff Bezos qui s'était couché sous Trump parce que effectivement il n'a pas envie de rester sur le côté et puis voir Monsieur Musk tout raflé. Donc voilà, voilà. Et il n'a pas accepté de soutenir Kamala Harris, pardon. Et non seulement ça, et lorsque cette
dessinatrice de presse,
parce que tous les dessins de presse sont pas forcément une caricature. La caricature, c'est un style du dessin de presse. C'est-à-dire qu'on va, moi, me dessiner avec un gros nez, des binocles, une vieille barbe blanche, ça y est, ça c'est une caricature. Mais un dessin de presse, ça recouvre plein de figures de style différentes. Et comment donc, dans cette dame-là a voulu publier un dessin qui a été refusé, et elle a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il y a d'autres journaux aux États-Unis où ils ont décidé de ne plus publier de dessins de presse parce qu'ils en avaient plein le cul de d'être assommés de critiques, de menaces, de procès, etc. Jamais le dessin de presse ne s'est porté, la liberté d'expression s'est portée aussi mal. Et ça vaut aussi bien pour la droite, l'extrême droite, que pour la gauche. Moi, je me rappelle du dessin de Coco dans Libé où on avait quand même l'autre folle, de la France insoumise, qui s'est mise à hurler en disant vous n'aurez pas votre haine, mais vous la méritez. Non, mais ça va. Elle était Charlie aussi. Et je suis sûr qu'elle était Charlie, quoi, il y a 10 ans. Et aujourd'hui.
Mélenchon est à l'enterrement de Charles.
C'est bien. Et aujourd'hui, lorsque Coco publie un dessin qui choque ses valeurs à elle, elle est prête à lui refiler sa haine. De quoi on parle? Vous voyez, et je suis très désespéré par la situation parce qu'effectivement le dessin de presse se porte mal, parce que la liberté d'expression se porte mal, parce que les principaux médias sont sont la propriété de grands financiers qui n'ont rien à voir avec la pluralité de pensée.
Il reste des services publics quand même encore un peu. Mais de toute façon, en même temps, il y a une reconnaissance. Il va y avoir un musée, si je ne m'abuse.
Alors, il paraît que c'est relancé. Ouais, on en a parlé. Un jour, ça ne l'est plus. Il paraît que la mère d'Ati a remis ça,
Oh, finalement, elle est banco.
Allez. Mais voir le dossier d'une maison et d'un musée du dessin de presse défendu par Rachida Dati. Vous savez quoi ? Je doute un peu.
Ouais, mais je crois qu'il y aura du Charlie Hebdo, et notamment du Charlie Hebdo, le fameux dessin de Cabu, qui seront exposés dans ce musée quand il verra le jour.
Si tant est fût qu'il voie le jour.
Mais elle a dit banco, là. Elle a dit banco, j'y crois.
Ouais, j'ai vu. Mais je suis.
On a vu ça.
Ah, on suit le dossier.
Interlude musicale ?
Yes.
Programmation à Roger.
Yes.
Un classique. We'll be right back. Les Ramones. Les Ramones, The Crusher. Bravo Roger, très bonne sélection.
Alors, je m'étais renseigné, j'ai quand même fini par me renseigner. En fait, c'est un hommage à un boxeur, cette chanson-là.
Il y a un nombre de coups de timbales, je sais pas si t'as entendu, mais il y en a tout le temps pris, Simon.
C'est reconnu comme étant un des meilleurs morceaux de punk de toute l'histoire. Tiens, allez, un petit quiz pour voir si vous avez de la mémoire.
Voilà.
Et ça vous concerne, c'est dans le grand monde du collant moulu.
Dès le début de l'année, des tests.
Ah bah direct.
Putain, la trêve des confiseurs, tout ça.
Ah, c'est pas long chez nous. Alors, en fait, il faudrait que vous me citiez. Mais je vais pas vous demander de l'ensemble parce que c'est vraiment trop dur. Mais il faudrait que vous me citiez des héros de Marvel qui ne sont jamais morts dans les comics.
Jamais
morts. Alors moi, il y en avait que je connaissais.
Jamais mort, mais c'est vrai qu'il y en a, qui meurent très régulièrement.
Alors moi, qui ne suis pas lecteur de comics, en fait, l'intérêt de cet article, ça m'a permis d'apprendre qu'effectivement, il y en avait qui mouraient, il y en a qui meurent alors.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ressusciter. En fait, c'est un peu pervers. Mais tu prends Captain America, finalement, il est mort plusieurs fois.
Ah, je ne savais pas.
En fait, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, et puis il va se retrouver à un moment à tomber dans l'océan, et en fait, il n'est pas vraiment mort, mais il est congelé. Il sera retrouvé plus tard par les Vengeurs et intégrera les Vengeurs. Et puis, il y a un arc où il meurt assassiné. En fait, il n'est pas vraiment mort. Mais c'est assez régulier. Des fois, c'est même un peu lassant, en fait.
Bah oui, j'imagine.
Parce que ça te fait des climax quand même terribles quand tu as un personnage.
Alors, qu'est-ce que vous appelez un climax,
C'est un maximum de tension, quoi. Tu vois, tu as un sommet de la mort d'un héros, c'est quelque chose, quoi. Moi, je me souviens quand il y a eu la mort de Captain Marvel, par exemple. C'était une histoire vachement intéressante où il meurait finalement d'un cancer, tu vois, qu'il avait chopé lors d'une de ses missions, on va dire.
Comme tout à chacun.
C'est un épisode vraiment dense, quoi. Et puis, ils l'ont pas vraiment ressuscité, mais ils ont respecté un peu. Mais autrement, ils reviennent régulièrement. Et du coup, ça perd, je trouve, de son efficacité dramatique, quoi. Alors, dès qu'il meurt pas. Je sais pas, peut-être les quatre fantastiques quand même, je crois pas qu'ils soient morts. La torche est morte, il y a un moment.
Ouais, je savais même pas, vous apprenez plein de choses.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas ça.
Des classiques.
Ah ouais, classiques que moi je connais.
Je suis pas sûr que Spider-Man soit mort.
Alors, ils disent que Spider-Man est mort.
Ah bon?
Ouais.
Parce que,
par exemple, il cite parmi les dixièmes, dans l'univers Marvel classique, celui Gwen Stacy a un destin tragique. On se souvient tous de la mort éprouvante de la belle blonde, etc.
Ouais. Je m'en souviens, oui.
Elle devient même Spider-Gwen après avoir été mordue, machin. Ah oui, c'est vrai que pourquoi j'ai pensé qu'il était mort, l'autre?
Non, Spider-Man, je pense qu'il y a échappé à ça.
Bah, il le cite pas, c'est curieux.
Alors, c'est quoi vos noms? Balancez vos noms, là.
La créature des marais.
Ah ouais, vous avez pris un personnage central quand même. Alors moi, il y a des fois, j'ai vu des épisodes où il se faisait sacrément bourrer la gueule. Hein.
Il perd des morceaux d'un
Dark Avenger où il y a Ares qui le défonce à la hache.
Alors je confonds pas avec eux. Non. Ils disent Man-Thing, c'est la créature des marais.
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est le swamp là. C'est comment il s'appelait. Ça vient de c'est un Anglais qui avait fait ça. Putain, Monsieur Lefebvre, il le connaît par cœur. Alan Moore qui avait créé ce personnage.
Il aime bien Monsieur Lefebvre.
Ouais.
Ouais. Et donc, lui, il meurt jamais. Un autre qui meurt jamais de ma génération, genre chiant, philosophe, toujours à réfléchir dans l'espace et compagnie.
Ah, le surfeur.
Ouais, le Silver Surfer. Jamais aimé celui-là. Même quand j'en ai lu, quand j'étais ado et tout, il était toujours là sur sa putain de planche.
C'est pas Moebius qui avait fait deux épisodes du surfeur.
Gottlieb avait fait une parodie où on le voyait, il était hyper chiant, il réfléchissait. Et je crois que Gottlieb devait pas trop le kiffer non plus. J'ai toujours trouvé chiant comme la mort, moi, le Silver Surfer. Eh ben, il est jamais mort non plus.
Alors après, vous voulez des personnages qui sont jamais morts.
Ouais, c'est ça, mais ça.
Parce qu'ils ont des pouvoirs ou des trucs.
Non, c'est parce que je sais pas dans les scénarios. Après, c'est que des gens que je connais pas.
Vas-y, dis.
Alors,
disons, ou un dernier.
Un petit dernier pour la route. J'en reviens.
C'est écrit en tout petit sur ton téléphone.
Non, c'est pas ça, mais c'est que j'ai plus d'imprimante. Vous voyez, quand j'ai plus d'imprimante, c'est chiant. Est-ce que vous connaissez, j'en ai parlé de Gwen tout à l'heure.
Spider-Gwen,
elle est jamais morte. Et après, je peux vous citer Black Cat.
Black Cat.
Et jamais morte.
Black Cat, ouais. Alors, c'est lié à Spider-Man, ça aussi. Black Cat, c'est la chatte noire.
Ouais, et après, et bah oui, Black Cat, oui, la chatte noire. Vous êtes pas obligé de le rappeler. Ça fait grivois. Moi, Black Cat, je trouve que ça fait super héroïne. La chatte noire, tout de suite, on est chez. On est chez, comment il s'appelle, Yvette et Roger, non, comment c'est?
SAS.
Oh putain. Alors, pas la peine que je vous parle d'écureuillette.
Ah oui, oui, elle a fait, ouais, écureuillette, elle a été la babysitter.
Jessica Jones.
Ah oui, j'adore ce personnage.
Ouais,
c'est bien. Ouais. Et donc, c'était pour me dire quoi au final? Bah, juste pour me tester.
Ouais, vous savez rien. En fait, et
c'est plaisir gratuit. D'offrir, c'est la nouvelle année.
Joie de recevoir.
Johnny Carwash, I'm a mess. Et hop, un Johnny de plus dans ma liste. Alors, est-ce que vous avez lu pendant ces vacances? Moi, j'ai lu. Allez, j'ai un très chouette album à vous proposer, si vous voulez, mon bon Roger.
Yes.
Qui va aller très bien avec l'interview qu'on va écouter tout à l'heure, à savoir l'interview des auteurs de l'excellente série pour Petiot qui s'appelle Brume. Vraiment quelque chose qui est un peu dans cet univers-là, cet univers un peu de magie et d'obscurité, un peu Tim Burtonien, un petit peu... en gothique par moment, et plein de poésie et plein de drôlerie, c'est La Cuisine des Ogres. La Cuisine des Ogres avec l'épisode Trois fois morte. Je dis bien l'épisode parce que si j'ai bien tout compris, Rudsev nous propose donc La Cuisine des Ogres. Ça va être trois histoires qui sont finalement indépendantes mais qui vont avoir lieu dans le même univers et dont certains des personnages vont se côtoyer d'un tome à l'autre. Ça va nous
mais Trois fois morte au pluriel ou au singulier?
L'épisode là s'appelle Trois fois morte au singulier.
Ok.
Et donc c'est l'histoire. Là, on a l'histoire de Trois fois morte, et il y aura deux autres aventures qui feront écho à cet épisode-là, à Trois fois morte, mais qui peut se lire de manière complètement autonome. La Cuisine des Ogres, c'est quoi? En fait, ça commence et on va découvrir. On est en Savoie. On va découvrir qu'on est en Savoie dans les temps médiévaux, et on va suivre un petit groupe de gamins qui viennent des rues, qui viennent intégrer une petite nouvelle dans la bande. Elle s'appelle Blanchette. C'est une jeune fille. On sent qu'elle a fugué. Et vraiment, elle découvre le monde de la rue, donc elle est assez maladroite. Les autres hésitent d'ailleurs un petit peu, se posent des questions. Est-ce qu'on la garde dans la bande, etc. Parce qu'ils crèvent la dalle. Donc pour la survie, si elle est maladroite, si elle ne fait pas sa part, c'est plus un poids mort, quoi. Elle a les cheveux blancs. On sent qu'elle a vécu, tu vois, des choses. Cette gamine de 10-12 ans, elle a vécu des choses. Et puis, en fait, les gamins vont être attirés par une espèce de panier plein de fruits et légumes qui pend du ciel, comme ça, dans une petite auréole. La faim les pousse à attraper le panier. En fait, le panier, c'est comme un piège, c'est comme un l'appât d'un pêcheur.
It's a trap.
Ils vont se faire choper par une espèce de croque-mitaine qui est tout encapuchonné. T'as juste son nez qui dépasse de la capuche.
Et il mange des petits.
Non, lui, il est pire que ça. C'est qu'en fait, il va les emmener dans ce qui est une colline que les gamins connaissent. C'est dans leur paysage. Mais lui, il a un accès magique puisque c'est une créature magique. C'est une espèce de croque-mitaine. Il a le pouvoir de les emmener dans la vraie montagne qui s'appelle Dent de Chat. Il va l'emmener dans ce qui est vraiment cette montagne. Savoir, c'est le repère des ogres. Et les ogres, c'est tout, comme s'ils étaient tous... c'est comme s'ils tenaient une espèce de plein de restaurants dans la même montagne. Tu vois, c'est comme s'ils étaient un grand street food. En fait, ils sont tous cuisiniers.
Et ils mangent des petits.
Et par exemple, ingrédients, ils mangent des petits. Mais alors, tu sais, pas ils les mangent, on les embroche. Non, il y a de la cuisine. C'est des ingrédients dans un autre plat, des fois
c'est
même le
boulot,
petit gamin.
C'est du boulot.
Tu découvres tout un monde de cuisine. Et tu vas et cette petite gamine, donc, qui s'appelle Blanchette, c'est elle, en fait, qui va vivre l'aventure dans cette montagne où elle va essayer de délivrer ses amis, notamment de les délivrer de la cuisine. Et au cours de cette aventure, trois fois, elle mourra. Et tu vas découvrir donc l'aventure de Blanchette. C'est plein de poésie, en fait. Ça a l'air un peu effrayant comme ça au départ, mais en fait, vraiment, les personnages sont hyper attachants parce qu'elle va découvrir tout le monde tout ce monde qui te gravite autour des fourneaux, tu sais, les commis, ceux qui font la vaisselle, etc., etc., toute cette hiérarchie. Et puis la concurrence entre les restaurateurs. Les ogres sont tous des restaurateurs. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mais pas toi et moi, des créatures magiques. Par exemple, dans cet épisode-là, il y a le fils de Minos, le fameux Minotaure dont la venue est annoncée. Et donc, on leur fait des plats, etc. Et c'est vraiment tout un univers. C'est très Miyazaki dans l'ambiance, tu sais. Tu découvres tout, comme dans le voyage de Chihiro, tu vois. Tu découvres tout un lieu, un établissement, des activités avec tout ce petit monde qui gravite à l'intérieur. Il y a plein de personnages hyper sympas. Et c'est cette richesse de personnages qui, à mon avis, il justifie qu'il y aura deux autres histoires qui, à mon avis... Trois fois morte étant l'histoire principale, vont faire écho à l'aventure de cette gamine Blanchette là. C'est Fabien Velman au scénario de ce conte. Alors bon, ça explique quand même beaucoup de choses, hein, les cinq conteurs de Bagdad, etc. Les univers fantastiques, merveilleux. Monsieur Velman, il connaît ça, il aime ça, et puis il pratique donc ce style-là.
Il raconte très bien.
Ouais. Et alors avec un très très beau dessin de Jean-Baptiste Andrea, avec des couleurs vraiment magnifiques. Vraiment, c'est un plaisir de tourner les pages et de regarder tout ce petit monde. Il y a des choix de couleurs. Vous qui vous intéressez aux couleurs, regarde le kraken sous l'eau là, comme on devine sa forme.
Oui, il est beau.
Hein? Ouais. Alors qu'il est vraiment, il est sous la surface. Et là, il y a la petite Blanchette dans cette petite espèce de soucoupe là. Comment Blanchette va-t-elle échapper à la marmite? Pourquoi la dent du chat s'appelle la dent du chat? Comment Blanchette va-t-elle se retrouver dans une marmite qui flotte sur un lac dans lequel il y a un kraken? Pourquoi va-t-on la surnommer trois fois mort précisément? Toutes les réponses sont dans l'album. À vous de lire La Cuisine des Ogres. Premier tome, ou on va dire première aventure, peut se lire indépendamment des deux autres qui viendront, trois fois morte, l'aventure de Blanchette, la petite fille. C'est chez Rue de Sèvres, monsieur Fabien Velman au scénario, et l'excellent Jean-Baptiste Andrea au dessin. Voilà pour moi.
Alors moi, ça n'a rien à voir. Parce que je vais vous parler d'Elon Musk.
À vous tuez le rêve, toi.
Ah ben, je...
Mais après, c'est un personnage intéressant, je reconnais.
Alors,
c'est une biographie?
Alors c'est une biographie, sûrement pas autorisée par Musk, parce que, comment dirais-je, l'auteur, en l'occurrence, comment dirais-je, Daryl Cunningham, s'il vous plaît.
C'est un Américain ?
Ouais, Daryl Cunningham, il fait pas dans la dentelle, et il nous fait découvrir le personnage de Musk. Alors je dois vous avouer que comme je suis une grosse loche, il a tout fait, Daryl Cunningham, le scénario, le dessin et couleurs, c'est paru chez Delcourt Ancrage. Donc c'est une œuvre qui nous vient tout droit des États-Unis.
From America.
Et alors on dit, on va pas acheter ça pour le dessin, mais si on s'intéresse s'intéresse à la fin du monde, par contre, eh bien, on peut lire ce fameux Elon Musk. Alors, je vous avoue que comme moi, je suis une grosse loche, j'ai acquis ce bouquin au mois de juin. Et vous voyez, regardez, j'avais noté des trucs. Plein de trucs que je vais vous lire, d'ailleurs. Et, bah ouais, parce que...
J'ai pris des notes.
J'ai pris des notes parce que c'est hyper copieux.
Moi, je pense que c'est vachement... C'est une vie de, quand même, de personnage presque de roman. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose...
Elon Musk, quand même pas rien, parce que ce monsieur-là, excusez-moi, je tape, vous voyez comment il est dangereux, cet homme-là, il suffit de regarder, quand j'appuie avec son bouquin, vous avez vu le bouquin que ça fait à la radio, c'est affreux. Elon Musk, enquête sur un nouveau maître du monde. Daryl Cunningham, donc se livre à une bio qui n'est certainement pas, qui ferait certainement pas plaisir à Elon Musk, mais qui est, je dirais, très analytique, très froide, très, démonstrative, qui explique plein de choses, et comme moi je suis une grosse loge, je vous dis encore une fois, je l'ai acquis au printemps, et je l'ai seulement terminé, suite à l'élection de Trump, et je me suis dit, pour me remettre du rayon, vous savez, je déteste les fêtes de Noël, que j'ai toujours trouvé d'un sinistre achevé, et je me suis dit, tant que pas avoir le moral, eh bien, je vais finir cette bio d'Elon Musk. Parce que, on va quand même pas se leurrer. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de la vendre à 2-3 copains, copines, et ils m'ont dit, Elon Musk. Mais c'est quand même bien de connaître son ennemi. C'est aussi ça l'intérêt de cet ouvrage. Parce que cet ouvrage lève quand même pas mal d'ambiguïté. Et la problématique, en fait, que soulève cet ouvrage est la suivante, à savoir, est-ce que Elon Musk, c'est un génie? Ou alors, est-ce que c'est un espèce de super Bernard Tapie? Et qui rebondit et qui, façon chat à 9 vies, c'est 9 vies qu'ils ont, se casse la gueule, mais se relève, etc. Et est-ce que, effectivement, toutes les entreprises de pointe sur lesquelles ils s'appuient, à savoir Telsa et Starlinks, est-ce que c'est vraiment de son fait ou pas? Eh bien, cet ouvrage-là lève le voile, et en fait, le père Elon Musk, eh bien, sans le soutien de l'État, c'est peanuts. Parce que, avant tout, c'est un brasseur. C'est un super brasseur de vent. Et ça doit lui venir de son grand-père. Son grand-père était un aventurier, tireur d'élite, pilote d'avion, conservateur, conservateur convaincu, originaire du Canada. Il a fini par s'installer en Afrique du Sud où il a épousé les thèses de l'apartheid. Déjà, il a l'hérédité, bonjour. Sa mère, Elon, était mannequin et elle le restera bien roulée. La mère d'Elon, elle restera jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est vous dire. Son père, par contre, c'est un beau, comment il les appelle, redneck, quoi. Redneck sud-africain, violent. Il foutra une bonne danse à sa femme le jour des noces, histoire de lui montrer qui est le patron, vous voyez le genre. Tout ça se terminera par un divorce. Il y aura quand même 3 gosses. Ça se terminera par un divorce. Et Elon, à 11 ans, choisira de rester avec son père parce que c'est son père qui a le pognon. On sent tout de suite déjà. Non, mais c'est ce que nous dit l'auteur de la BD. Et on sent effectivement chez ce monsieur.
Instinct de survie, moi, je dis.
Voilà, c'est ça. Après, il fait des études en Afrique du Sud, part aux États-Unis, où assez rapidement. Alors, c'est pas un mec qui. Il picole pas, lui. Il aime pas la liche. J'aime pas les gens qui aiment pas la liche. Bon, mes filles, comme la peste.
Je crois qu'il fume.
Il fume un peu de bœuf et il prend de la kétamine, apparemment. D'après ce que dit cet ouvrage de BD un peu plus loin, sur la fin, il tourne à la kétamine. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas, mais en tout cas, il aimerait bien, selon cette BD-là, il y a tout un chapitre drogue. Il aimerait bien ce genre de substance. Et bref, en fait, on découvre que Elon Musk, il va rebondir. Donc après la fac, on va le voir assez rapidement autour de la création de PayPal. Vous voyez, donc vous connaissez ce système-là, mais il va en être viré. Les gens de PayPal vont finir par le virer, parce que rapidement, il se révèle être quelqu'un d'assez imbuvable, très directif, et qui n'arrête pas de miser. En fait, c'est un joueur.
Gambler.
Ouais, gambler, permanent. Et on découvre dans cet ouvrage-là que sans les soutiens de l'État, c'est-à-dire que sa société Starlink, sans, les soutiens de l'État, c'est-à-dire qu'au lieu de filer les sous à la NASA, on les file à Musk. voyez, et tous les, et ça commence par George W. Bush, qui commence, qui est le premier à subventionner les projets de Musk, et Obama dans la foulée poursuivra. Et il est fort à parier qu'effectivement la réélection de Trump va permettre à Musk, comment dirais-je, d'avoir tout ce dont il a besoin.
Donc c'est un album qui analyse tout le personnage, quoi.
Voilà. Mmh. Et on voit, il y a une scène qui est récurrente, c'est les gens qui le quittent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il sait. Alors par contre, une de ses idées, de un de ses côtés géniaux, c'est qu'il sent flairer l'affaire qui peut marcher, et c'est un roi de la communication. Il va vendre des tas de, un projet de souterrain par exemple, à des tas de villes aux États-Unis qui ne verront jamais le jour. Les projets, on découvre que là, les Tesla, là, les premières qui sortaient, les gens ont donné plein de sous, et il s'avère que les gens étaient livrés un an, deux ans après. La moitié des options qui étaient prévues, il fallait les racheter, etc. Mmh. C'est à la limite, on est à la limite de l'escroquerie, en fait. Et on poursuit ce personnage là, de Musk, qui surfe, comment dirais-je, toujours à la limite de l'escroquerie. On le voit aussi également dans le, lors de la création de la transformation de Twitter en X. C'est une véritable catastrophe. Et cet ouvrage est très très intéressant parce qu'il se termine par une explication.
Vous n'allez pas spoiler la fin.
En fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la philosophie du long-termisme ?
Non.
Eh bien, le long-termisme, c'est simple. C'est-à-dire que rien à foutre des 8 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui si vous travaillez pour l'avenir de la civilisation terrestre qui va coloniser l'espace. Vous voyez, Jean? C'est-à-dire que rien à foutre que les gens d'aujourd'hui vivent dans la misère, dans des conditions de plus en plus effroyables, du moment que ça soit pour travailler sur cette race humaine qui est appelée à coloniser l'espace. Donc on est quand même un petit peu chez les dingos.
Dans l'ASF.
Mais ça tombe bien, parce que je trouve qu'avec Trump, eh ben, il fait effectivement la paire. On découvre également le nom de ses enfants aussi. On découvre plein de choses sur le personnage de Musk.
Est-ce que ça va jusqu'à ses fonctions actuelles? Non, puisque
alors
ça
non,
date...
justement, il est sorti en mai-juin l'année dernière, 2024 pour le coup. Il est toujours largement disponible. Mais de toute façon, ils annoncent, hein, il y a un chapitre où ils montrent de quelle manière et pour quelle raison effectivement Musk va passer. Au début, il dit qu'il était central, c'était un centriste, et qu'il va basculer effectivement dans l'ultra-républicanisme.
Libertarien, je crois que c'est le terme qu'il faut pour le
définir. Oui, c'est un putain de libertarien. Elon Musk, enquête sur un nouveau maître du monde, Daryl Cunningham, aux éditions Delcourt, collection Ancrage.
Très bien, et on file à Saint-Malo retrouver les auteurs de l'excellente trilogie Brume, à savoir Jérôme Pélissier et Karine Inder, qui ont fait le plaisir de venir nous parler.
Eh bien, c'est parti. Nous sommes maintenant en compagnie de Karine, j'espère que je prononce bien, Hinder.
Oui.
Voilà. Et de Jérôme Pélissier.
Ouais.
Voilà. Alors moi, je vais résumer, je vais faire un petit pitch. Recueilli dans la forêt par son père et par un père aimant, pardon, Brume est une petite fille qui ne rêve que d'une seule chose, devenir sorcière. Comme Naya, une sorcière qui a disparu et qui était la protectrice du village. Le jour où son papa adoptif lui dévoile le fait qu'un grimoire de magie fut trouvé près d'elle, l'aventure commence. Et si Brume avait réellement un don et une destinée, hors du commun.
Vous avez été très bon.
Ah oui.
Ah, vous étiez très bon.
J'ai résumé.
Effectivement, vous êtes les auteurs de cette série jeunesse qui cartonne, hein, il faut l'avouer.
Beaucoup.
Ah oui, parce que vous avez réussi vraiment.
Monsieur Donjon Denis Pendant, qui m'a dit il faut que j'aille sur leur stand avoir une dédicace pour ma fille.
Vous avez réussi à créer un univers vraiment très complet. Moi, je compare à Harry Potter, j'ai envie de vous dire, carrément, à ce niveau-là.
Donc, voilà. Merci beaucoup pour la comparaison.
Non, mais c'est vrai, c'est très complet, vous allez voir. Bon, ok, je suis fan. Voilà, allez, autant le dire. Très bien. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, si on remonte dans le temps, vous n'étiez pas forcément parti sur la bande dessinée, justement. Vous veniez soit de l'animation, soit de l'illustration. La BD, c'était pas votre première arme. C'est pas venu tout de suite.
C'était un souhait depuis très longtemps, tant pour Jérôme que pour moi. Mais effectivement, on se sentait pas l'aisance en termes de dessin et la légitimité de se lancer dans un tel projet. Donc, on a fait des choses peut-être qui nous semblaient plus à notre portée.
Ouais, moi c'était. En fait, j'hésitais à aller sur la BD parce que, de mon expérience, apprendre. Pour moi, c'était un art. Je faisais de l'illustration, Karine aussi. C'est un art nouveau. Et quand je me rappelais du temps qu'il m'a fallu pour atteindre un certain niveau en illustration, je me suis dit, je vais devoir passer par les mêmes étapes pour exceller un minimum, en tout cas être pas trop mauvais en BD. Et donc, ce constat m'a longtemps freiné. Et finalement, on a décidé de se lancer. Et puis là, on regrette pas quoi.
Ouais, on va y rester un petit peu dans la BD.
Ah bah j'espère bien. Mais vous étiez lecteur de BD, est-ce que vous avez des lectures qui ça étaient pour vous des points de repère, des maîtres à penser, des livres de chevet, je sais pas comment dire.
Ouais. Alors déjà moi j'ai appris le dessin mes parents m'avaient abonné à Picsou Magazine et j'ai appris le dessin en recopiant les personnages de cette BD. Pendant très longtemps j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai toujours lu de la BD sans être un grand grand amateur comme je peux en rencontrer en festival. Et il y a effectivement, je crois que c'est le cas pour tous les deux, une BD, un auteur qui nous a bien inspiré, bien marqué, c'est Bill Watterson avec Calvin et Hobbes. Je trouve qu'en termes de BD strip, c'était beaucoup plus fin que ce que quand on connaît pas, on est assez étonné de voir les thèmes abordés, cette poésie, cet humour, et ça nous a vachement marqué, vachement inspiré.
Ouais, qui avait arrêté d'un coup, et il a ressorti un album avec quelqu'un d'autre qui n'a strictement plus rien à voir.
Ouais.
Vous êtes au courant ?
Oui, j'ai vu.
Non, moi je sais pas.
Moi je l'ai vu passer.
Moi je l'ai feuilleté. Et j'étais très surpris, ça n'a plus rien à
voir. Ah oui, il est allé ailleurs.
J'ai trop hâte de voir ça.
Je peux se permettre, parce que de toute façon, il avait travaillé avec Calvin et Hobbes, c'est marrant.
Et vous aviez des lectures aussi,
Karine ? Oui, moi, il y a eu des grandes étapes aussi avec la BD. Alors, je ne suis pas hyper calée en BD, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des étapes. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de BD. Pour le coup, je lisais quasiment que ça. J'étais fan d'Astérix et de Franquin. Franquin, il me fascinait, vraiment. Il me fascine toujours, d'ailleurs. J'ai pu voir des planches originales, en plus à Angoulême l'année dernière, j'étais dingue. Et puis, donc ça, c'était pour mon enfance. Ça, c'est le cœur. Et puis après, par la suite, il y a Dave McKean qui m'a ouvert une porte. Je me suis dit, on peut faire ça. Pas mal à des BD indépendantes et un qui a été décisif, je pense, c'est Trois ombres de Pedrosa. Et là, je me suis dit, en fait, peut-être moi aussi un jour je ferai de la BD. C'est vraiment l'album qui m'a fait prendre conscience de quelque chose et peut-être d'une voie future. Mais Trois ombres a été décisif pour moi.
C'est un album qui détonne en plus dans la biographie de Pedrosa parce qu'il était plus dans l'humour et puis pouf! Là, il a basculé dans tout à fait autre chose.
C'est vrai, mais à cette époque-là, j'étais ouverte à tout, j'étais étudiante, et il y avait quelque chose dans cet album qui était unique, pour moi, enfin en tout cas. Je me suis dit, on a le droit de faire ça ? Waouh ! Et voilà.
Ouais, je crois qu'on avait une image très codifiée de la BD et on a découvert toute cette liberté et ça nous a donné envie. Ouais. Mmh. Et aujourd'hui, on en lit beaucoup, beaucoup plus parce qu'on a découvert tout un monde.
Oui, oui. Mais c'est votre première série Brume, si je me trompe pas. Donc, et puis, ça serait bien de voir comment ça a démarré. Enfin, j'ai eu entendu dire que c'était lié finalement à un départ à un lieu, à Rochefort-en-Terre. Mmh. Je crois que c'est vraiment ça le point de départ, mais je vais vous laisser le raconter parce que c'est votre vécu.
Je raconte le début, tu racontes la suite. Ouais. En fait, on s'est installé il y a 6 ans dans le Morbihan. On venait de région parisienne et on voit, moi je vois des brumes juste exceptionnelles. C'est féerique, c'est beau, c'est dans la nature. Les rayons de soleil percent dans la brume, c'est absolument prodigieux. Et je me dis, c'est tellement beau, j'aimerais bien le représenter en aquarelle. À ce moment-là, je connaissais les images de Julien Arnal, ses magnifiques albums à l'aquarelle. Et ça m'inspirait, j'avais envie de faire un peu comme Julien. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire ça. Mais à ce moment-là, je pense à un petit album. Et je me dis, pour que mon personnage ressorte dans cette brume, à l'aquarelle, il faut une silhouette facilement reconnaissable. Et je pense à une sorcière, parce que c'est foncé, que le petit chapeau, voilà. Mmh,
chapeau pointu.
Donc c'est très graphique, mon inspiration à la base. Je me tourne vers Jérôme, puisque je ne sais pas écrire d'histoire. Et lui, il est très doué. Et je lui demande, est-ce que tu peux m'inventer une histoire ? À ce moment-là, je pense à un petit album, hein, bien sûr, à l'aquarelle, 12 pages, enfin voilà.
Un petit album hors BD. Hein.
Hors BD, oui. Un tout petit album illustré, comme j'avais l'habitude de faire, avec une sorcière et de la brume. Après, l'histoire change.
Ce qui est marrant, c'est que ça, ce qu'elle raconte, ça s'est passé sur le temps d'un trajet en voiture de 20 minutes. Et elle me parle de ça. Donc moi, comme je fais souvent, je suis en train d'assimiler les choses, de me représenter ce qu'on pourrait raconter. Je pense à la sorcière Naya du village. Je pense à toute cette mythologie bretonne qu'on a pris de plein fouet en s'installant. Ça s'imbrique. Et j'ai une première étincelle. Je dis, on n'a qu'à raconter l'histoire d'une petite sorcière qui s'appelle Brume. Il faudrait qu'elle ait une histoire autour de cette brume. Et là, c'était parti. Et à l'arrivée, quand on arrive à notre destination, on avait les 3 actes de Brume qui représentent aujourd'hui les 3 albums. En gros, voilà.
Vous aviez les trois, tac, tac, tac.
Oui, c'était pensé déjà.
Ça rigole
en 3.
Pas.
Hein. Quand ils sont en voiture, ils discutent, ça je vais te dire.
En 20 minutes. Hein.
En 20 minutes, t'as t'imagines un trajet de 5 heures.
Après, il a fallu la peaufiner, hein, mais en tout cas, l'axe principal, il était là, quoi. C'est venu comme ça, un flux de fulgurance.
Rochefort-en-Terre abrite un château, ce qu'il en reste, parce que comme ils ont fait un peu le con dans le temps, on leur a pété un peu les murs.
Ça a brûlé, ils ont reconstruit, ça a été détruit.
On les a assiégés, ils ont fait chier un peu, ils ont fait chier. Enfin, bref, on leur a pété les remparts, comme dans beaucoup de lieux. Mais il en reste encore un peu, un espèce d'éperon rocheux, là, comme une espèce de vilaine dent morte. Et dans ce lieu incroyable, il y a un musée, le Naya Museum. Mm. Et Naya, du nom de justement cette sorcière qui habitait dans le bas là, du château, de ce qui reste du château, le fameux Naya Museum, elle existait réellement, la pauvre femme.
Et ça, et en fait, Rochefort va vachement vous nourrir, quoi, parce que cette sorcière, vous l'intégrez, et puis de toute façon, vous en parlez un tout petit peu, vous y avez une photo, vous.
Oui.
Et vous avez vraiment pioché dans votre environnement, les lieux, etc.
En fait,
Rochefort-en-Terre, c'est.
L'idée était née des brumes de notre environnement, et moi, graphiquement, je ne voyais pas un autre lieu pour cet album. Alors, à la base, c'était pas une BD, mais ça restait quand même le terreau de base, c'était le lieu. Et donc, quand il a fallu donner un village, j'ai pris mon village, il est magnifique. Rochefort-en-Terre, c'est un village classé. Quand il a fallu faire de la végétation, j'ai continué et on a même poussé le vice à représenter tous les villageois du village de Brume sont des Rochefortais.
Oui, j'ai lu ça.
Donc on a pris le sujet à bras le corps, donc c'est complètement inspiré de notre lieu.
Vous avez demandé aux gens quand même pour les
bien
représenter.
Oui, on leur a demandé, on a montré le résultat. Sauf pour Thierry, on lui a fait la surprise, mais il est très content. Thierry, c'est notre libraire et c'est le bibliothécaire dans le tome 2.
Ah oui.
Et oui, et puis pour la petite histoire, on est passé de petit album jeunesse à la BD parce qu'on s'est rendu compte que notre histoire était un peu trop ambitieuse pour un album. Et c'est là qu'on s'est dit, et si c'était le moment de faire de la BD. Mm-hmm. Donc on y allait, moi, la peur au ventre. et ça se passe bien.
Et juste parce qu'on parlait de finalement de des gens qui vos voisins, est-ce qu'il y a des gens en touriste qui arrivent à Rochefort-en-Terre et qui cherchent
oui,
à reconnaître?
Une grande surprise parce que jamais on aurait imaginé quelque chose comme ça. Alors le village accueille déjà beaucoup de touristes puisque du fait de ses labels, mais aujourd'hui on a un tourisme lié à la BD. Tout à fait.
Je suis pas sûr qu'il y ait des tonnes de BD qui ont créé comme ça un effet touristique.
Ben non, je sais pas, mais nous on a l'office de tourisme puis ils nous ont dit mais c'est fou les gens qui viennent parce qu'ils ont lu Brume. Et moi j'ai fait deux rencontres assez rigolotes. Je me promène tous les matins mon chien dans le parc du château et il y a une petite fille qui me dévisage un peu, qui se retourne et qui dit à sa mère je crois que c'est l'auteur de Brume.
Wow.
Et je me retourne, j'ai oui.
Ouais,
ça c'était drôle parce que bah il y a notre photo dans la fin du tome 1 et puis je crois que sa mère me dit oui mais vous savez elle est depuis qu'on est arrivé à Rochefort-en-Terre elle dévisage tout le monde pour essayer de vous trouver et là elle a eu de la chance.
Mais c'est pour vous dire comment elle a regardé tout quoi.
Oui.
Même vos photos.
Ouais.
Mais c'est ce que je vous disais, vous avez réussi à créer quelque chose qui est de l'ordre de vraiment vous proposer un univers moi qui enfin parce que c'est du fantastique, je compare ça à Rowling et son Harry Potter quoi.
C'est très élogieux comme comparaison.
Non mais
merci.
C'est vrai. Vous avez aussi, tant qu'on est dans un peu les mythes et légendes, vous avez rajouté notamment, enfin dans des épisodes, d'autres mythes et légendes de Bretagne. Ça, vous jouez bien, vous profitez en fait de tout notre panthéon.
Ouais, c'est tellement riche. Et en même temps, il y a une difficulté, c'est que ça a été beaucoup repris, ça a été beaucoup traité, ces légendes-là, ces personnages, ces mythologies. Donc c'est pas évident de proposer un regard neuf, un vent de fraîcheur, mais c'est tellement inspirant. Il suffit de sortir dans la forêt de Brocéliande et tout de suite il y a des idées qui pop. C'est assez incroyable.
Il faut dire qu'en Bretagne, on est servi en personnages mythologiques, régionaux, mythes et légendes. Il n'y a qu'à piocher. Quoi.
Parfois, tu peux se transformer en drôle.
C'est vrai. Mais la Bretagne, c'est vrai que c'était un super terreau pour des histoires de sorcières.
Donc tout est là. Pour créer une histoire et après c'est pas tout de mettre trois lignes etc, enfin j'exagère mais de se faire un pitch, après faut donner corps, faut donner chair. Alors là évidemment elle est venue facilement cette petite sorcière
ouais je crois que
pour toi oui.
Ouais, mais je crois que c'est un personnage qui était dans notre besace sans qu'on en ait réellement conscience. Parce que je suis retombé sur des dessins, des choses qu'on avait fait ensemble quand Karine a voulu se remettre au dessin. On travaillait tous les deux dans le jeu vidéo et elle avait fait un petit blog qui s'appelait Mipou, un blog, et elle faisait des petits strips. Mmh. Et dans ces petits strips, moi j'avais complètement oublié, elle avait mis en scène une petite fille qui s'appelait Lola. Et c'est le portrait craché de Brume aussi bien physiquement que dans le caractère. Et ça remonte de 2017, quoi.
Je pense que c'est un peu nous, en fait.
Et je me suis dit, mais c'est fou. Et il y avait d'ailleurs un strip où elle jouait avec une baguette magique. Elle essayait de transformer les gens qui rentraient dans la rame de métro. Elle était dans le métro avec sa mère. Elle dit, transforme-toi en grenouille, ça marche pas. Elle est mécontente. Transforme-toi en dragon, ça marche pas. Elle regarde sa baguette, elle la secoue. Et il y en a un autre qui rentre, transforme-toi en super moche. Là, le monsieur se retourne et elle crie à sa maman, ah maman, ça a marché. et tout était là, quoi. C'était Brume. Quand je suis tombé c'est fou. Donc je crois que ce personnage, il était. Il couvait.
Puis il y a des oppositions parce qu'elle est toute petite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est rien que quand on ouvre la première page, hop, il y a une espèce de grand géant. Hop,
c'est son papa. Ouais.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et on voit bien que tout est dit entre cette petite boule de nerf et l'espèce de grand géant qui dit maintenant, on attend. Mon Dieu, elle va pas attendre.
Ouais, la patience, c'est pas son meilleur.
Bye. let go. I need something, give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Love and hate, how much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to. Can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. I can see a face of troubles, and I'm on the verge. Hospital.
Et donc vous travaillez tous les deux. Alors, on va pas, enfin, on l'a compris, vous êtes en couple, et je me demandais comment ça se fait, comment c'est de travailler en couple. Parce que moi, par exemple, des fois, je fais de la tapisserie avec ma femme, et ça se passe toujours très mal. Et je me disais, créer une œuvre tous les deux, finalement, comment vous vous débrouillez? Comment ça
se
passe?
Chez nous, c'est très naturel. La première chose qu'on a fait quand on s'est rencontrés à l'école, c'est un projet ensemble. On a toujours bossé ensemble et ça s'est fait de façon très naturelle. On ne s'est jamais trop posé de questions. Enfin, je crois, hein, tu me dis si je me trompe.
Non.
Et donc Brume suit une lignée de beaucoup de collaborations qu'on a fait tous les deux. On avait déjà fait des albums jeunesse où moi j'étais au dessin, Jérôme à la couleur. On avait même fait un album où toi tu avais écrit et j'étais juste au dessin. Et donc il y a quelque chose d'assez naturel chez nous. Alors on a appris avec le temps à se connaître, à se parler. Je crois que maintenant on n'a plus trop de...
Ouais, c'est surtout qu'on s'est rendu compte de la force que ça représente et de ce que ça nous apporte dans notre, notamment sur Brume. Il y a une espèce de le fait de travailler ensemble et de se connaître aussi bien et de se faire confiance, ça nous a donné une espèce de super pouvoir. C'est-à-dire que moi, quand j'écris un gag, je prends un exemple concret, je lui montre, si je la vois plisser des yeux, je réfléchis pas, je change, je le supprime. Et cette efficacité-là, le recul que l'autre nous apporte, c'est très précieux.
Puis vous pouvez travailler vite parce que quand vous êtes ensemble, il n'y a pas le délai du
téléphone,
oui, c'est ça.
Etc. Voilà.
Ah ben, on est à 3 mètres,
c'est
même pas
efficace.
2 mètres l'un de l'autre. Donc en général, quand moi je fais une bouille où je suis pas sûre, où j'ai un doute, hop, je dis Jérôme, je l'embête parce qu'il a un casque et tout. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Et puis toi, pareil aussi, pas mal au scénario quand t'as des idées dont t'es pas sûr.
Ouais, alors quand on travaille seul, nos doutes, on est seul avec nos doutes, quoi. Que là, on compte sur l'autre pour nous les gommer ou nous aider.
Oui, puis je pense qu'on n'aurait pas. Enfin, on a fait beaucoup de collaborations avec d'autres auteurs, et on n'a pas, on n'oserait peut-être pas demander de changer autant. Si on connaissait pas si bien la personne.
Exactement. Moi, j'oserais pas retravailler m'approprier le dessin de Karine comme je le fais avec à la couleur si c'était avec un autre auteur. J'oserais pas. Là, on ose, on se fait confiance.
Ouais. Complémentarité.
Ouais.
C'est beau.
Efficacité. Bah, moi, pour la tapisserie,
je vais me mettre à la BD avec ma femme. Peut-être ça va peut-être changer un truc.
Moi, comme je suis nul en mesure, ma femme, elle est capable de vous dire combien il faut de rouleaux. C'est elle qui mesure les laits, elle les taille, et moi, j'en colle et je colle. Voilà. Chacun à sa place.
C'est ça, bah on a trouvé le bon équilibre avec Jérôme. C'est ça,
voilà,
il faudrait peut-être tester une nouvelle
peut-être
formule pour
la partie dans
la
laquelle
tapisserie.
Il est le plus compétent, peut-être.
Oui,
c'est horrible,
oui.
La tapisserie.
Karine, quel est votre support pour travailler? Vous tablez à l'ancienne, papier, crayon, plume, pinceau, ou alors vous êtes déjà à tablette numérique dans le 21e siècle?
Un mélange des deux. Pour créer les nouveaux personnages, je suis sur papier. Donc j'ai remarqué que j'étais plus efficace si je dessinais sur papier, parce que c'est plus simple en général. Et puis ensuite, par contre, pour la BD en elle-même, je suis tout en numérique, tout. Et là, pareil, ça m'apporte la possibilité, notamment au niveau du storyboard, de beaucoup modifier. Ouais. Je suis une éternelle insatisfaite, Jérôme, pour vous le dire. J'ai mes carnets, mais c'est tout. C'est vrai que ça, c'est le côté
c'est
un peu dommage.
Ouais. Mais ça le donne, moi ce que j'aime avec ce média-là, c'est que on n'est pas crispé, il y a une spontanéité que j'ai plus de mal à avoir sur papier. Quand je fais de la couleur à la gouache, je suis beaucoup plus crispé qu'en numérique où je me lâche, je teste des choses, je recommence. Voilà. J'aime bien ce média pour ça.
Il y a un côté léger, ouais.
Alors, je creuserai bien encore un petit peu dans le dessin, ne prenez pas offense, mais il y a plein de choses qui fait que ça marche, et notamment le dessin. Alors, vous êtes très forte pour les expressions.
Merci.
vos personnages ont des tronches, ont des mimiques.
Ça me touche particulièrement. Merci.
Non, vraiment. Mais quand on regarde de près les décors, aussi, il y a quelque chose de féerique. Je sais pas comment vous avez pensé à tout ce travail graphique là. C'est venu facilement. Je sais pas comment vous avez procédé.
Alors,
pour créer
pour
un truc comme
tout,
ça.
Tout ce qui est le côté expressivité, c'est pour ça que ça me touche beaucoup, parce que c'est vous parlez directement à mon cœur. Avant, j'étais animatrice 3D et l'expressivité, ça a toujours été mon objectif numéro un. Donc rendre mes personnages expressifs, drôles, attachants, pénibles, enfin, mais vivants. Donc ça me touche particulièrement comme compliment parce que c'est évidemment le cœur de ce que j'essaye de faire. Et pour les décors, alors là, bah, je dirais que c'est un... Alors c'est peut-être un mélange entre les couleurs et le dessin, mais j'adore la nature. Mmh. C'est une autre passion, mais en tout cas, c'est un plaisir.
Les trois tomes sont trois sorties du village, hein, qui est normalement un lieu clos où elle revient pendant, enfin pour les deux premiers épisodes, elle revient, et puis même à la fin du troisième, Brume va revenir parce que donc avec sa quête des origines, comme tu l'as pitché au début, etc. Elle sort, elle se lance dans des aventures. On va parler de ses compagnons aussi parce qu'ils sont ils sont appréciables, et c'est des grandes randonnées, des grandes odyssées avec des chars gigantesque. Il y a du Tolkien là-dedans. Enfin, c'est fou, quoi.
Ah bah là, c'est oui, c'est nos goûts en matière de, je sais pas, de cinéma d'animation, de notre goût pour la rando, pour la nature, qui parle. Et moi, j'aime les œuvres qui parlent de quête. Et quand on se retrouve seul face à la nature impressionnante, c'est quelque chose qui nous fait bien vibrer.
Et ça permet de rencontrer des petits lapins blancs.
Oui.
Qui deviennent un running gag de... C'est excellent, ça.
Ça, c'est une, c'est notre éditeur, Nicolas Forçon, qui nous l'a suggéré. On l'a fait pour le tome 1, mais il avait trouvé ça drôle. Il nous a dit, ah, ça serait chouette qu'on le fasse pour chaque tome. Et allez, banco.
À chaque fois, il meurt. Mais il revient, en fait, à la fin.
Oui, alors tout le monde ne le voit pas. Les enfants ne le voient pas toujours, parce qu'ils ne lisent pas forcément le petit feuillet. Mais oui, tout se passe bien pour lui.
Alors, vous pouvez mettre entrée dans le catalogue. Léna, comment s'est fait cette entrée? Comment vous avez réussi à... C'est vous, Jérôme, qui êtes plus...
Alors, on était inconnus en bande dessinée. On avait nos... on connaît pas mal de maisons d'édition pour la jeunesse, mais quand on cherche à rentrer dans la BD, nous, on n'était personne en BD. Donc, on a fait, comme fait n'importe quel débutant, on a monté un dossier de quelques pages et on l'a envoyé à 8 éditeurs de cœur. Et première réponse qu'on reçoit, négatif. Alors là, avec mon caractère...
Il y en a un qui s'en veut, là.
Là, je me dis...
Je pense pas. Non.
Et je me dis, mince, c'est foutu. C'est nul. On continue à faire de l'illustration. Et Karine me dit, mais arrête, c'est bon, c'est juste une première réponse. Et les 7 autres, positives. Donc en fait, on a choisi entre 7 éditeurs. Et on a eu un contact direct avec 4 éditeurs en visio. Et puis on a choisi de travailler avec Léna.
Est-ce que c'est la perspective d'aller dans la collection de show? Alors moi, la collection de show, je la connais bien parce que mon fils achetait le petit show quand, vous voyez, je suis un vieux papa, moi, en fait, mon fils est un grand garçon maintenant. Mais la collection de show, c'est quelque chose quand même.
Ouais, c'est prestigieux.
Non,
c'est pas ça qui a été révélateur.
C'est très humain, en fait. Notre éditeur, Nicolas Forzan, nous avait fait des retours très constructifs, très nourris, très intéressants, qui nous ont fait un petit peu progresser dans la BD. Et en fait, c'est le seul qui s'était positionné comme ça en critique. Mais c'était intéressant, vraiment. On a rebondi sur ses réflexions. Et du coup, ça a été assez naturel après de travailler avec lui.
Ça nous a donné des... Pardon.
Oui, ça a été naturel en fait de travailler avec lui et c'était tout s'alignait bien en fait.
Ça nous a donné des axes d'amélioration immédiats et ça nous a plu. Après, il faut être honnête parce qu'on a eu des très bons contacts avec d'autres maisons d'édition,
oui, oui.
Notamment une que j'ai en tête et on aurait beaucoup aimé. Et puis voilà, il faut être honnête, c'est aussi la force de frappe de Glénat qui, ce qu'il nous proposait aussi d'un point de vue financier. C'était, ça nous permettait vraiment de faire de belles planches. Et ça, c'était important pour nous. C'est des planches qui sont assez chronophages, elles sont assez longues à réaliser. Et voilà, ça a été aussi décisif, faut être honnête. I've been trying to call. I've been on my own long enough. Maybe you could show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on just a touch, baby. Since it is cold and empty, no one's around to touch me. Can't see clearly when you're gone.
I say, ooh, I'm blinded by the lies. No, I can't sleep until I feel your touch. And I say, ooh, I'm drowning in the night. Oh, would I like to show one night shows? Running out of time. I can see the sunlight in the sky, so I hit the road and don't try, baby. The city's cold and empty, no one's around but just me. Can't see clearly with you. And I say, ooh, I'm blinded by the light. No, I can't sleep until I feel your touch. And I say, ooh, I'm drowning in the night. Oh, well, I would like to show you one night trust. Oh,
creuser un petit peu les personnages quand même, parce qu'on a un sacré trio. Bon, commençons par Brume, ce caractère, comment on pourrait dire, sous les dehors, tout mignon, c'est un caractère quand même assez bourru, têtu, obstiné. Pourquoi lui avoir donné ce profil? Alors après, votre anecdote semblait déjà, dans le métro là, ouais. Semblait elle était quelque part là, un petit peu
oui,
dans l'arrière-fond du crâne.
Alors dans le pour faire la chose simple, dans le tome 1 je voulais montrer l'aspect le plus évident de son caractère, c'est-à-dire son côté tout feu tout flamme, cassante, directive, sorcière en fait. Je voulais pas une fille sage, je voulais pas une petite fille sage. Mais je me suis dit, il faut créer, comme j'avais aussi envie de montrer ses failles et montrer que c'était une petite fille et qu'elle avait un grand cœur, je me suis dit, j'aime bien moi au cinéma, dans les œuvres, que utiliser ce qu'on appelle le contraste. Si on veut mettre en valeur le bon cœur d'un personnage, si on l'a d'abord décrit comme une peste, son côté grand cœur va apparaître d'autant plus fort. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Je vais commencer par décrire un personnage comme ça, qui paraît se foutre de tout et foncer tête baissée, et au fur et à mesure montrer ses failles et montrer que ses compagnons, elle les aime et qu'elle est prête à les défendre et à se battre pour eux, et qu'elle a et finir sur le tome 3 en montrant qu'elle a aussi beaucoup d'émotions en elle et que c'est voilà, qu'elle aime ses compagnons quoi. Mmh.
Alors les compagnons, alors le deuxième qui vient très souvent, et il a beaucoup de succès, j'ai vu plein de gamins et de gens qui l'avaient des petits chapeaux là, je sais pas comment dire, il y a plein de gens qui se trimballent avec
masques,
ça. Ouais, ouais, les petits masques. Bah, c'est Hubert le petit cochon, voilà. Personnage aussi important parce qu'il est narrateur.
Oui.
Alors, un petit cochon, comment le petit cochon est arrivé là-dedans? Parce que la petite sorcière, on comprend, la brume, tac, tac, tac.
On a essayé de trouver, on voulait un petit compagnon à Brume et on voulait éviter le chat,
le chien.
Les choses trop évidentes. Et on avait vu dans. Je crois que ça venait de. Je sais plus trop comment on a eu l'idée du petit cochon. En fait, on a réfléchi.
En fait, moi, je connaissais les petits cochons en Corée, petits cochons de compagnie. J'étais ultra fan.
Ouais, ça vient de là.
Et il y avait eu un film, Vaiana, qui était sorti et le cochon ne la suivait pas dans l'histoire. J'avais été extrêmement frustrée. Et du coup, cochon mignon et cochon noir coréen, ça, j'ai proposé à Jérôme un petit cochon noir. Voilà, et il m'a dit ok.
Et le fait d'en faire le narrateur, je voulais pas que ce soit juste la caution humoristique parce que c'était un peu trop gratuit. Et je me suis dit, non, si je fais un personnage, je veux qu'il ait une importance dans le récit, je veux qu'il ait son rôle à jouer et je veux pas qu'il soit là juste pour faire marrer, juste pour dire ah, il est mignon, même si tout le monde le trouve très mignon, mais je voulais lui donner un rôle important. Et je me suis dit que ça serait intéressant si c'était le narrateur. En plus, il ne parle pas, donc j'aimais cette idée, un narrateur qui n'a pas le don de parole.
Les petites bulles noires, là, ouais, c'est une sacrée trouille.
En fait, on est dans sa tête, mais il ne s'exprime pas.
Et avec les trois tomes, ce qui est bien, c'est que vous avez pu, comment dirais-je, prendre le temps de l'histoire, et même ce petit personnage qui, effectivement, au début, on comprend que c'est le narrateur, craque, il a le côté tout mignon, il se développe et il devient beaucoup plus que le simple amateur de chocolatine rigolo, sympathique, qui a le trimballe sous le bras. Il sort quand même l'épée du rocher, quoi.
Oui.
Il sort quand même l'épée du rocher. C'est pas un simple petit cochon coréen, j'ai envie de dire.
Non, on avait envie de mettre un grand mystère autour de lui. Parce que ça nous...
Parce qu'on a une idée
derrière la tête, en fait.
Ah bah ça sent la série parallèle, à un moment, les aventures du petit cochon. Un petit cochon qui terrasse le dragon, ça vous fait un putain de dessin.
Oui, alors il y a quelque chose, mais on va pas le développer maintenant. On va pas.
Un scoop pour une petite radio.
le scoop, bon, qui a un petit peu.
On a des haribos.
Polichinelle, c'est qu'il y a un tome 4. Et il y a ce petit cochon va avoir de l'importance encore plus.
Mais alors j'avoue que moi celui qui me touche le plus, je sais pas pourquoi, c'est Hugo. Moi j'y trouve un côté Sam Sagas.
C'est notre cas aussi à tous les deux, nous c'est notre personnage préféré.
Je lui trouve un côté Sam Sagas Gamji dans Tolkien, celui qui accompagne Frodon et qui est là, tout le temps là, qui porte le chaudron, qui porte tout.
C'est lui qui fait tout.
Ouais, et qui est en fait presque le plus héroïque, quoi.
Moi je l'adore parce que... pour plusieurs raisons. Déjà, il est né Hugo parce que je me suis dit si on a ce tempérament tout feu tout flamme de brume tout le temps constamment, ça va lasser. Ça peut être agaçant. J'en avais conscience et je me suis dit il faut un personnage qui pondère, qui fasse la balance extrême pour retrouver un équilibre. Et donc c'est comme ça qu'Hugo est né et sa naïveté. Moi, c'est celui qui me donne, comme je voulais que la BD soit drôle et que je voulais trouver des punchlines et des situations drôles et des gags, moi, c'est celui qui me donne le plus facilement des idées de réparties, de gags, parce que son côté hors-sol, son côté naïf, je l'ai tellement dans la peau que les idées fusent avec lui et du coup, je m'attache à lui. Il est loyal, donc on a tous envie d'avoir un Hugo dans sa vie à côté de soi tout le temps et ouais, on l'adore tous les deux aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est notre personnage
parce qu'il
favori.
Est totalement au service, quoi.
Ouais.
Même quand c'est lui qui fait la remarque, hop, Brume s'en empare et oui, t'as raison, il acquiesce, il porte, il est exemplaire. J'aimerais que vous soyez comme ça, mon bon Roger.
Ça agace.
Ah ouais. Vous êtes plus le mioïnin Grimly.
C'est pas, c'est choisi. On a parlé pas mal des expressions faciales, des petits personnages, Karine, mais on n'a pas encore. Ah oui, excusez-moi, je parlais
un micro,
du micro. Excusez-moi, la fatigue. On n'a pas parlé des décors, par contre. On n'a pas parlé.
Un petit peu, mais on pourrait creuser encore.
Ouais, hein. La forêt, comment vous avez travaillé les bois, la forêt qui entoure aussi Rochefort, faut le dire. Il y en a plein autour.
Eh bien, c'est la même chose.
Il y a de
chose,
l'eau aussi,
en fait.
Beaucoup d'eau.
Je me suis inspirée totalement de mon lieu de vie. Alors, il faut savoir qu'autour de Rochefort-en-Terre, il y a une forêt qui s'appelle, une colline qui s'appelle les Grès. Qui est une colline de schiste avec des grands rochers, donc on les retrouve exactement à l'identique dans la BD. Donc ça, évidemment, le paysage de Landes avec ses rochers était juste parfait comme décor pour Brume. Et puis après, ce qui le rend aussi sublime, ce décor, c'est les couleurs de Jérôme qui a su en tirer le meilleur parti. Donc, voilà.
Moi, j'ai une fascination depuis que je suis tout petit pour ces histoires d'enfants qui se perdent en forêt. Mais c'est quelque chose qui viscéralement me plaît. Si je dois acheter un livre par exemple et que dans le pitch il y a des personnages qui se perdent en forêt, je vais l'acheter. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et j'adore
c'est
ça.
C'est le syndrome du petit poucet.
Je crois et ça m'a toujours plu.
Alors moi juste j'adore la forêt, j'adore les plantes. Donc ça me va très bien ces histoires-là puisque c'est ce que je préfère dessiner.
On se demandait si vous aviez été chercher un peu dans des peintres naturalistes, etc. Si vous aviez cherché.
Non, alors je suis allée dans les gravures pour le coup, pour m'inspirer au niveau des du travail en noir et blanc. Mmh. Parce que j'étais pas forcément habituée à le faire en noir et blanc.
On a pris pas mal de photos aussi des forêts alentours.
Mais je suis allée voir dans des gravures, c'est vrai. Mmh. Notamment pour les rochers, parce que j'avais un peu plus de difficultés à dessiner des roches.
Page 41.
Ouais. Alors ce troisième épisode, ça clôture un cycle. Apparemment, il y a un quatrième, il y a une idée, etc. Mais ils veulent pas en parler. Il y a une page que je trouve très très forte, c'est la page 41. celle de la révélation, on va dire ça comme ça, pour pas trop ce blanc.
Ouais.
Ça, c'est. Oui, qui a eu l'idée de. Ouais.
Alors, c'est moi. En fait, le storyboard, on le travaille à deux. Je fais une première passe et Karine dit ok, ça c'est cool, je garde. Ça, c'est nul, je change. Bon, ça, elle l'a gardé.
Ouais, c'était hyper fort.
Très réussi.
Et j'avais. Déjà, moi, ce que j'aime, comme on n'avait pas tous les codes de la BD, ce qui nous a aidé, c'est justement qu'on a pris beaucoup de liberté dans la construction de nos pages. On s'est décomplexé parce qu'au départ, on regardait comment étaient faites les BD. Est-ce qu'il n'y a pas des codes en BD à respecter? Et on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de code, il fallait se faire plaisir. Et ça, c'est l'exemple de page où j'ai pris ce genre de liberté.
Je sais pas, peut-être ça se fait.
Et comme c'est le moment clé de toute l'histoire de ces trois tomes, c'est vraiment ce moment que tout le monde attend. En tout cas, l'annonce du moment que tout le monde attend, il fallait que je trouve quelque chose qui marque une brisure. Et pour moi, ce blanc, c'est un peu le vortex dans lequel elle est en train de s'engouffrer parce que elle sait, elle a ses réponses à ce moment-là précis. Et c'est pour ça que j'avais fait ça.
Ouais, elle est très forte. Et c'est vrai, bon, on se doute un petit peu, on a des indices, vous nous avez donné des petites clés, mais on l'attend ce moment. Et là, pouf, ça y est. Et c'est très très fort. Il y a souvent aussi, et ça c'est très rigolo, vous partagez plein de choses, plein d'informations, c'est-à-dire après la BD, il y en a encore, l'accès strictement réservé. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui fait la force, c'est pour ça que je pense à Harry Potter, c'est que ce partage-là, c'est vraiment l'idée de créer une communauté, j'ai l'impression. Voilà,
alors c'était pas dans cet esprit de créer une communauté, mais de ça fait créer un peu plus.
Ça crée un partage, ouais. Parce que vous parlez de Rochefort en terre, etc. Vraiment, vous vous livrez aussi. Et puis vous donner plein de compléments.
Ce qui est vrai, c'est qu'on voulait par là effacer un peu la distance qu'il peut y avoir entre un auteur et
c'est
son
ça.
Public.
Ouais. C'est-à-dire,
voilà, c'est ça, leur dire que derrière cette histoire, il s'est passé des choses et de aussi nous révéler, de dire qui est derrière Brume et ça a plu. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont fait remarquer.
L'idée originale, c'était notre éditeur qui nous a proposé d'ajouter ça.
Ouais, et moi j'ai trouvé que c'était très bien et c'est quelque chose qu'on va garder. C'est vraiment intéressant comme
après. Ça crée un partage, c'est fort.
On était en train de s'affoler parce qu'on s'aperçoit que l'heure tourne. Ah, malheureusement. Est-ce qu'on peut parler des couvertures? Comment vous les réalisez, vos couvertures? Est-ce que vous les réalisez en commun? Est-ce que l'éditeur a son mot à dire? Est-ce que c'est vous qui pouvez imposer vos choix? Comment ça se passe?
La couverture, c'est un lieu particulier où il y a beaucoup d'enjeux. Donc il faut que ça accroche, effectivement. Et donc pour cette étape toute particulière, Jérôme et moi sommes tous les deux au crayonné et on a proposé on a fait plusieurs propositions en crayonné à l'éditeur et puis ensemble on a choisi celle qui nous paraissait être la meilleure piste.
Ouais. Là, il y a un enjeu tout particulier sur la couve et il faut qu'elle accroche au premier coup d'œil. Il faut sortir du lot. C'est un petit peu angoissant le moment de la couve parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses qui se jouent ici.
C'est une image qui a vraiment été discutée à trois pour le coup.
Ouais.
C'est
là, on avait besoin vraiment de d'être en collaboration.
Il y a une graphiste qui travaillait avec nous
pour trouver la meilleure approche. Et on est.
Et ces dorures là, c'est très chouette.
C'est l'éditeur qui nous a offert ce beau cadeau.
Alors qu'un gigantesque goéland vient lui aussi l'auteur et l'autrice.
Il a repéré les haribots, ça se trouve.
Peut-être qu'il a vu les haribots, allez savoir. Je ne sais pas lequel il préférait. Est-ce qu'on attaque les projets tout de suite ou quoi, mon bon Erwan?
Les projets et puis la question haribots.
Alors, tous les deux, donc on a parlé d'un tome 4 bientôt. Ouais. Vous n'avez pas voulu trop en dire, on peut comprendre.
Est-ce qu'il y a des projets annexes ou on continue sur la lancée?
Non, il y a des projets annexes. Moi, j'ai pris goût à l'écriture, j'ai toujours envie de raconter des histoires. Maintenant, je me suis rassuré un petit peu en disant que j'en étais incapable, que je pouvais. Je me sens un peu plus légitime, donc j'écris et j'ai une autre histoire qui existait avant Brume, parce que Karine adore, donc elle m'a poussé à la travailler et il y a des éditeurs qui se montrent intéressés et ça sera pas de la jeunesse. Voilà, c'est ce que je peux dire.
Ah, que de mystère.
J'ai quitté le monde de la jeunesse.
J'ai différents univers moi dans la tête. et là pour le coup, non, c'est une histoire qui sera pour des plus grands.
Mmh. Voilà. Et vous,
Karine ? On a tellement de choses.
T'as pas précisé un truc, c'est que ce projet-là, a priori, on le fera à deux.
Eh ben si, je l'ai dit. Enfin, je dis non, que Karine m'a poussé à le faire. Ah, pardon, mais.
Ça, c'est le phénomène tapisserie. Ah, putain.
Quand tu l'as poussé à le faire, ça sous-entendait que. Non, mais non, oui, non. C'est encore une aventure qu'on veut vivre à deux.
Ouais. Voilà. Mais okay. Moi, là, du coup, je m'entraîne à faire un univers beaucoup plus réaliste.
D'accord, très bien. La question Haribo.
À la question Haribo, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il faut bien que les auteurs et les autrices de BD mangent. Parfois, ils mangent des cochonneries. Parfois, ils mangent aussi des Haribo. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Je crois que oui. En fait, je crois savoir que oui. Et quels sont, alors on va commencer quand même par Honneur aux Dames, par Karine. Quel est le Haribo
dans la boîte qui est devant vous, ouais.
Sur lequel vous jeteriez-vous en premier?
Lequel vous allez manger?
Alors il n'y est pas là dans cette boîte, c'est la fraise Tagada.
Ah non.
Ah oui.
Ah,
oui.
Je suis ultra
là,
fan.
C'est l'espèce de fraise sucrée. Mais le gros dragibus noir, non?
Ça vaut pas. Mais du coup, j'ai jeté mon dévolu déjà. J'ai quand même commencé à le croquer sur les coca. Choix numéro 2.
Le coca. Et vous, Jérôme?
Alors moi, c'est sans hésiter le schtroumpf. Parce que... alors moi, il faut savoir, je suis fils de boulanger. Mes parents, ils avaient une boulangerie-pâtisserie. Et moi, les bonbons là que j'ai devant moi, avant de partir à l'école, j'en prenais des poignées entières. Par exemple, pour les échanger quand je perdais des billes, pour les récupérer. Et le schtroumpf, parce que j'étais fan des schtroumpfs aussi. Donc, ouais, le petit schtroumpf là, je vais
le manger. Allez-y, vous avez, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être venu.
C'est gentil d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Merci beaucoup.
Et puis, on va poursuivre encore notre long après-midi parce qu'on n'a pas fini, mon bon Erwan. Merci beaucoup.
Merci.
On vous avait quitté avec Pins et on vous retrouve avec Slaves. Hein, c'était une programmation énergique que nous avions faite, beaucoup plus que celle que de nos invités.
Voilà, qui c'est des pour trucs lutter plus contre la pluie. Moi, je me dis, avec le rock and roll, ça peut faire remonter la pluie vers l'espace.
Exactement. C'était la 493e émission de Plume et Pinceau. Une petite pensée pour l'ami Christophe.
Grosse pensée même pour l'ami Christophe.
À la semaine prochaine, bonne lecture, tant qu'on a le droit.